La dispute. Ce soir, les arts plastiques.
Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée ce soir par Bruno Gagnère-Fontani et à la réalisation Daniel Fino. Je salue ce soir autour de moi Florian Guettet, Stéphane Coréard et Frédéric Bonnet qu'on retrouve avec joie après tous ces mois d'absence. Avec à notre programme Globe, architecture et sciences explorent le monde, à la cité de l'architecture et du patrimoine, François Ier et l'art des Pays-Bas, c'est au Louvre, et les fées du hasard au 104 à Paris. Aïssa Touendoy est également avec nous pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser sur Facebook ou sur Twitter, et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute ce soir à gagner des invitations pour le film Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo aujourd'hui au cinéma. Et nous commençons avec une exposition qui se tient en ce moment pas très loin de la Maison de la Radio, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dont le titre est « Globe, architecture et sciences explorent le monde » et qui se propose d'étudier la manière dont l'architecture s'est emparée de la forme sphérique du Panthéon romain aux planètes habitables de la science-fiction, en passant par les géoramas du XIXe siècle. Alors c'est une exposition dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est touffue. Il y a près de 100 projets, des dessins, des plans, des maquettes dans cet espace courbe du Palais de Chaillot. Comment est-ce que vous vous êtes orienté, Frédéric Bonnet, pour commencer ?
Je m'y suis orienté de manière linéaire et non pas sphérique, puisque la scénographie en elle-même de l'exposition, c'est un très long parcours longiligne. J'ai trouvé que cette exposition, elle a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'elle est très riche, elle est touffue, comme vous l'avez dit. Il y a près d'une centaine de projets qui sont présentés, à peu près tous sur le même modèle. Une maquette, des documents iconographiques, plans, relevés, élévations... représentations diverses et variées, des textes qui forcément sont nécessaires pour expliquer le projet, la remise en contexte. Donc tout ça est passionnant, mais c'est vrai que au bout d'un moment, il faut être vraiment très très motivé pour aller jusqu'au bout, sans être un petit peu repu avant d'arriver à la fin. Mais ceci étant dit, moi je l'ai trouvé plutôt bien conçu cette exposition. Pour qui véritablement a le temps et l'envie de se lancer sur le sujet, il y a des milliers de choses à apprendre. Parce que c'est pas seulement d'aller regarder par l'exemple illustré tel ou tel type de d'architecture sphérique qui nous est donné à voir, mais il y a une véritable réflexion sur une évolution dans le temps de ce qu'a pu être l'usage à la fois symbolique et utopique de cette forme sphérique. Et c'est surtout ça que moi j'en ai retenu, c'est que même dans des des usages un petit peu fous, comme on peut en voir à la fin du parcours, dans les années 60-70, des projets architecturaux, complètement fous, il reste quand même une forme d'utopie de cette forme-là, de l'usage de cette forme-là, qui n'est évidemment pas la même que celle qu'on peut retrouver au 19e siècle quand on regardait l'Antiquité, mais on conserve quand même cette forme, oui, ces attraits utopiques et symboliques, et ça, moi, j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant.
Et Yann Rocher, qui est commissaire de l'exposition, reconnaît lui-même qu'il a été un peu dépassé par l'ampleur de son projet, qu'il n'imaginait pas aussi large au départ. Stéphane Coéréard.
Oui, alors effectivement, cette exposition vise à placer la sphère à l'égal d'autres volumes qui sont emblématiques dans l'architecture, l'Arche et la Pyramide, et de les rejoindre au panthéon de ces formes. Il faut dire qu'en plus, la sphère, c'est le plus parfait des volumes géométriques, puisqu'il est symétrique par tous les bouts qu'on le prenne. Et effectivement, il se prête à beaucoup de variations. Donc ça, c'est plutôt un bon point dans l'exposition, parce que c'est, il y a un côté un peu répétitif, parce que finalement, de quoi on parle? On parle de représentation de la Terre ou du ciel, finalement, par des sphères plus ou moins complètes, architecturales, en général, dans lesquelles on peut rentrer ou qui sont à l'échelle du bâtiment. Mais enfin, une sphère, effectivement, déjà, ça peut représenter donc la Terre ou le ciel, ça peut être concave ou convexe, ça peut être partiel ou continu, on peut s'intéresser au contenant, au contenu, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc finalement, l'exposition déroule un petit peu toutes ces variations. C'est une exposition en fait qui appelle totalement l'imaginaire, je trouve, qui est assez fantasmagorique, notamment au début, puisque finalement les premiers bâtiments, c'est chronologique la présentation, et les premiers bâtiments sont des bâtiments peut-être pas fictifs, mais en tout cas dont on n'a pas de traces visuelles, notamment le tout premier, qui est du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Orniton, une volière qui est décrite dans un traité de l'agriculture par Varron, et qui est représentée dans des gravures à partir du 18e siècle, ce qu'on voit dans l'exposition, mais elle est imaginée à partir de sa description, donc ça montre bien comment l'imaginaire peut fonctionner. Après, je rejoins ce qu'a dit Frédéric Bonnet, c'est-à-dire que la première partie de l'exposition est un peu répétitive, parce qu'on est effectivement sur tous ces projets d'avant le 19e siècle, ou jusqu'au 19e siècle, où il n'y a pas de maquette d'époque, donc il y a une espèce de maquette 3D qui ont toute la même échelle, toute la même matière, la même couleur, donc c'est un petit peu ingrat. De ce point de vue-là, on pourra se reporter utilement au catalogue, qui est superbe, très touffu, qui reprend beaucoup d'éléments d'explication, d'ailleurs qui ne sont pas dans l'exposition. Alors après, dans la deuxième partie, en revanche, on arrive dans des choses aussi plus sculpturales, et qui peuvent, du coup, qui rompent un peu cette monotonie, avec des choses là aussi carrément délirantes, comme Super Studio, qui imagine une architecture interstellaire avec, ils bloquent carrément la rotation de la Lune et ils font une autoroute entre la Terre et la Lune, enfin donc inutile de dire que c'est des projets non réalisés. D'une manière générale, c'est quand même ce qui est le plus intéressant, effectivement, c'est la dimension utopique de la plupart de ces projets. Et c'est évidemment un régal pour les faussaires, avec des personnalités troubles comme Jean-Jacques Lequeux, qui est représenté ici par un projet. On sait que c'est un architecte qui a déposé tous ses papier à la Bibliothèque Nationale en 1825, mais à part ça, on n'a aucune trace de son existence, donc on ne sait de lui que ce qu'il en a dit. Il a beaucoup inspiré Marcel Duchamp, on pense même d'ailleurs que Marcel Duchamp à la BN a repris, a amélioré des dessins de Lequeux, voire a substitué ses dessins à des dessins de Lequeux, à condition même que Lequeux ait existé. Je précise d'ailleurs qu'il y aura une exposition Lequeux au Petit Palais en décembre prochain, qui promet d'être passionnante. Il y a aussi évidemment les autres utopistes ou révolutionnaires, comme Boulay-Ledoux, ça c'est une partie très intéressante de l'exposition, avec la partie contemporaine sur laquelle on reviendra sans doute.
C'est vrai qu'il y a une forme d'uniformité dans l'exposition. Moi, les maquettes dont vous parlez, je les trouve au contraire assez belles, et le fait qu'elles se ressemblent, parce qu'elles, une quarantaine, je crois, a été créée pour l'exposition, est plutôt, je trouve, un des points positifs de l'exposition. Florian Guettet, pardon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette exposition Globe?
Très agréablement surpris déjà pour ce côté-là, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur une exposition entre la science et l'art, ou en tout cas l'architecture, donc ça donne des confrontations très nettes, très brutes entre l'imaginaire et puis la pragmatique de l'architecture, qui fait que la plupart des projets, ou en tout cas beaucoup des projets qui nous sont présentés, effectivement ne sont pas réalisés. Donc c'est un peu aussi une manière de rendre hommage à ces projets ou à ces bâtiments qui n'ont jamais eu lieu, qui n'ont jamais existé. Et de ce point de vue-là, on est plutôt gâté. Alors l'utopie, moi je la relis à deux choses en fait, soit effectivement à une sorte de geste très métaphysique de vouloir faire descendre la voûte céleste sur la Terre, et donc là on est sur quelque chose d'assez anthropologiquement fort, et Sloterdijk l'a très bien dit quand il a fait sa trilogie sur les sphères, il parle du globe en disant Mais finalement, c'est quoi cette image du globe, de la Terre? C'est à la fois une ouverture sur l'infinité de l'univers et la clôture du monde. Et finalement, cette tension-là, elle est patente, en fait, dans chacun des projets qu'on nous présente. Et alors, comment faire descendre la Terre sur le ciel sur la Terre? C'est quand même une grande question pour, à la fois pour des architectes, mais aussi pour des artistes. Et ça donne souvent quand même lieu à une forme d'esthétique assez hiératique, très spiritualiste, avec ces prêtres, et qui sont souvent d'ailleurs des astronomes, hein, on voit les cénotaphes à Newton, on voit ces sortes de monumentalisation de la science et des projets, on va dire, plus spiritualistes, hein, avec des globes qui peuvent servir à faire des cimetières. Alors, effectivement, le temple de la Terre de Lequeux, on pense au temple de l'immortalité de Jean-Nicolas Sobre. Et tout ça, en fait, nous amène assez facilement vers quelque chose d'un peu plus laïcisé, on va dire, qui est la science-fiction. Et je trouve que ce glissement-là entre la science-fiction et la spiritualité est assez bien mené, puisque on y passe sans choc, en fait, sans heurte, pas de manière forcément abrupte, et tout nous paraît finalement rentrer dans une forme de continuité. Alors cette utopie-là, moi, m'a intéressé. Et puis il y a une autre utopie qui est peut-être une contre-utopie, qui est l'utopie, on va dire, plus politique aussi, la façon dont ces globes vont servir une forme d'appropriation, de réinterprétation du monde, des territoires. Alors là, peut-être que c'est plus visible, il me semble, sur tous les projets qui ont lieu pendant les expositions universelles au 19e, hein, donc en gros du Crystal Palace de 1851 à Londres jusqu'à la Tour Eiffel en 1889, qui va devenir pendant très longtemps le bâtiment à surpasser. Et donc on va créer beaucoup de projets qui vont jamais voir le jour pour la plupart, pour essayer de dépasser en hauteur. Et en fait, sur le Crystal Palace, ce que je savais pas du tout, c'est qu'il y a que l'hémisphère nord qui était représenté, que bien souvent, en fait, c'est très occidental, allocentré, hein, c'est-à-dire qu'on représente la route des Indes parce que Christophe Colomb est censé l'avoir prise, mais en fait tout ce qui est au sud n'est pas représenté. Donc ce sont des globes déjà très tronqués. Alors évidemment, je le dis quand même, mais ça me rappelle aussi que, enfin, là on voit beaucoup de choses traitées, on va dire, par des scientifiques occidentaux, etc., et qu'il y a très peu de projets quand même sur le monde non occidental. Il y en a un, cela dit, c'est Kusenj Amra, alors évidemment, on m'excusera mon accent inexistant, qui est un projet du 8e siècle, pardon, où déjà on voit cette passion de l'astronomie, qui est évidemment une grande spécialité du monde arabe, et qui est finalement très très peu représentée, sous-représentée dans cette exposition. Voilà, ça c'est un de mes regrets, avec quelques oublis, par exemple Frey Otto, moi, qui est un architecte que j'adore, qui est un Canadien, qui a beaucoup fait de choses géodésiques et qu'on ne représente pas là, sauf si je me trompe. Buckminster Fuller ou Boulet, qui sont quand même les grands que j'attendais, sont réduits à un seul projet. Donc effectivement, c'est un côté un peu catalogue et peut-être pas réaliste sur ce projet-là, même si j'ai appris quand même que Buckminster Fuller, qui a déposé l'architecture géodésique, en fait, il était précédé par un autre architecte dont je n'ai pas le nom, mais qui avait déjà en fait fait exactement la même architecture, mais qui n'avait simplement pas déposé le brevet.
Oui, en fait, ce qu'indique le sous-titre Architecture et science explore le monde oublie presque un troisième larron, qui est la géographie et l'histoire de la géographie, puisqu'en effet, l'architecture en sphère évolue évidemment à mesure qu'on fait des découvertes sur le cosmos, et je pense que c'est peut-être aussi là à la croisée de ces trois possibilités-là, enfin de ces trois que ça se complexifie énormément, et que peut-être l'exposition est un peu roborative. En tout cas, moi, ça m'a donné un peu cette impression-là, Frédéric Bonnet.
Pas spécialement, mais c'est vrai que la géographie, en fait, ça, je suis assez d'accord avec vous, et la grande absente, si tant est qu'il y en ait une, de l'exposition. Mais par contre, je trouve très intéressant que Florian ait pointé l'aspect politique du
sujet. Ça, pour le coup, c'est assez bien pointé,
voilà,
dans l'expo.
Qui est très bien traité, parce que c'est véritablement avec la question du basculement incessant qui se produit entre le céleste et le terrestre, l'autre champ de vision véritablement important de cette exposition. Parce que à partir du moment au 19e siècle, essentiellement, où l'astronomie devient une science physique, dans la mesure où on applique à sa représentation les règles de l'architecture terrestre, on va pas pouvoir rester dans les planétariums ad vitam aeternam. Et ce qui est intéressant, et ce que montre bien l'exposition, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, il y a un glissement qui se produit notamment par l'engouement pour les expositions universelles, dans lesquelles les sphères deviennent des motifs si ce n'est générique, en tout cas très très récurrent. C'est dans ces expositions universelles, on n'est plus seulement dans la représentation géographique, justement, mais comme on peut pas se contenter de ça, on va aller vers de l'utilitaire et vers du fonctionnel. Il faut que l'architecture sphérique finalement serve à quelque chose. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir après ça, après cet engouement au moment des expositions universelles, justement le saut dans les années 60-70 avec les projets d'architecture complètement utopiques. Stéphane mentionnait Super Studio, il y en a plein d'autres. Et même, alors là je reviens quand même un petit peu en avant, moi j'ai été stupéfait par le monument à la Révolution russe que j'avais jamais vu, donc une sphère lumineuse supportée par la faucille qui s'enroule autour de ce qui est un globe terrestre et le marteau fièrement dressé à côté. Mais au-delà de ça, on se rend bien compte que oui, arrive un moment où tous les projets sphériques qui nous sont présentés, c'est des villes, c'est des habitats, c'est des architectures, ça a une contingence jusque au projet assez dingue de centre de convention, de conférence de Rem Koolhaas pour les Émirats Arabes Unis, qui reprend littéralement la forme de l'étoile de la mort, de la guerre des étoiles.
Stéphane Coréard, on peut peut-être aussi parler de la dimension esthétique, parce qu'il y a une valeur esthétique, étant donné que ces projets n'ont pas été réalisés, il y a beaucoup de dessins au-delà des maquettes, et les dessins sont très beaux, je pense aux dessins et aux aquarelles qui représentent les projets d'Élysée Reclus, par exemple, qu'on n'a pas encore évoqué, je crois, qui sont en soi très beaux.
Oui, alors vous avez raison, c'est vrai que notamment la première partie, il y a beaucoup de gravures, donc c'est vrai que beaucoup de plans, tout ça peut être un peu monotone, ça met effectivement en contraste, en valeur, tout ce qui n'est pas de ce registre-là. Donc effectivement, vous avez cité Reclus, mais il y a aussi le symbolisme qui est présent avec un pavillon très Art Nouveau, le pavillon de l'homme de Moucha, 1897. L'ésotérisme, là on rejoint avec le compositeur Scriabine, l'expressionnisme même avec Ablique, et même donc c'est carrément la science-fiction à la fin. Je voudrais revenir effectivement sur, à mon avis, un point un petit peu problématique de l'exposition, c'est le côté très systématique de un projet, donc un architecte, un projet, mais très répétitive, avec tout le monde un peu la même place, etc. Mais en visitant l'exposition, j'ai pensé à la fameuse phrase de Godard qui dit « L'objectivité, c'est 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs ». Là, évidemment, c'est pas la même problématique, mais c'est un petit peu ça. Et je trouve qu'il y a des personnalités, effectivement, qui auraient mérité d'être plus mises en avant. Boulez, c'est évident. Et pour la partie contemporaine, évidemment, Buckminster Fuller, parce que chez lui, effectivement, il dépasse cette simple problématique de la sphère comme représentation pour en faire vraiment un système très actif, on va dire, d'organisation du monde, d'écologie, de gestion des flux d'énergie, etc. Et l'autre aussi, qui est là un peu à l'étroit dans sa boîte à chaussures, c'est James Turrell, l'artiste californien qui a acheté ce cratère volcanique dans les années 70 et qui l'a transformé justement en un gigantesque observatoire astronomique à l'œil nu. Et ça aurait mérité, à mon avis, plus de place. C'est en partie compensé là aussi par le catalogue, puisque par exemple, Buckminster Fuller a le droit à un chapitre qui lui est dédié.
Tout à fait, un très beau catalogue édité par Norma. Donc voilà, en ce qui concerne cette exposition, Globe, Architecture et Sciences explore le monde, le catalogue porte le même nom. On peut voir l'expo jusqu'au 26 mars prochain, c'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, à suivre dans la dispute François Ier, les Pays-Bas et l'effet du hasard.
France Culture,
la dispute.
Nous sommes toujours ce soir au cœur de la dispute consacrée aux arts plastiques. Nos pas nous portent désormais au Louvre, où se tient depuis plusieurs mois déjà une exposition intitulée « François Ier et l'art des Pays-Bas ». Le titre donne assez bien tout seul une idée de ce qu'on y voit, la production flamande que François Ier, grand roi renaissant et mécène, a fait découvrir en France.
Thank you.
On entre avec Jean-Philippe Rameau et Stéphane Coréard au Louvre, vous qui avez documenté votre visite sur Twitter. J'ai pu voir en postant des tableaux de suppliciés, des décollations. Comment vous avez vécu cette exposition?
Ça, c'était les supplices que je promettais à Arnaud Laporte pour son retour de vacances. Écoutez, alors, celle-là, il ne reste plus qu'une semaine pour la voir. Donc, effectivement, moi, je vous conseille de vous y précipiter.
Il y a un très beau catalogue quand même.
Ah, malheureusement, on l'a pas eu parce qu'on nous a dit qu'il était épuisé. J'espère qu'il est disponible à la vente. Il n'est pas disponible pour. voilà. Quand j'étais petit, il y avait cette publicité qui disait les Pays-Bas, l'autre pays du fromage. Là, c'est plutôt l'autre pays de la peinture, puisqu'effectivement, c'est une exposition un peu paradoxale, une exposition d'histoire de l'art vivante qui montre justement que l'histoire de l'art peut avoir l'esprit de contradiction. On a beaucoup retenu, à juste titre, de François Ier, son rôle dans l'introduction de la peinture italienne, dont évidemment Léonard de Vinci reste le plus grand héros. Et du coup, on avait un petit peu laissé de côté, nous et surtout les historiens d'art, cette question de l'influence de la peinture flamande en France. Et ce qui est très beau déjà dans cette exposition et ce que sa commissaire dit dans le catalogue, Cécile Skyres, c'est que c'est un travail collectif et c'est le fruit effectivement de 50 ans de recherche, donc pas uniquement les siennes, mais d'historiens d'art successifs pour attribuer des œuvres à des artistes, parce que c'est un vrai feuilleton dans l'art ancien, parfois de savoir qui a peint un tableau et également de rechercher ces œuvres, puisqu'il y a des prêts qui viennent de minuscules églises, mairies, de villages, etc. Donc c'est aussi une exposition militante qui montre la richesse de ce patrimoine qui est disséminé un peu partout en France et de la chance qu'on a d'avoir ce patrimoine. Et là, il est réuni dans le plus beau des écrins qu'est le Louvre. C'était un peu comme la précédente, une exposition d'histoire de l'art et de géographie aussi, puisqu'effectivement, François Ier était très versé dans l'art italien. Néanmoins, Anvers était une capitale incontournable au début du XVIe siècle de la peinture, avec notamment Médicis, Patinire, etc. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes allaient en Italie, évidemment, parfaire leur éducation et leur formation, mais ils allaient aussi en Hollande. C'est le cas notamment de Durer, par exemple, qu'on a aperçu, paraît-il, à Anvers, aux alentours de 1520. Je disais l'autre pays de la peinture, mais c'est pas que la peinture. Un des mérites de l'exposition, c'est aussi de mélanger toutes les formes d'expression visuelle. Donc il y a de la peinture, de la sculpture, du dessin, de l'orfèvrerie, de la tapisserie, du vitrail, des enluminures, des gravures. Il y a même deux très belles bannières de procession du maître de Dindeville qui viennent des collections du musée des arts décoratifs de Paris, mais il y a aussi des prêts de l'étranger. Donc on est dans cette période de la première moitié du XVIe siècle, effectivement, cet art flamand est importé largement sous l'impulsion de François Ier en France, avec trois axes géographiques. Je disais, c'est une histoire de géographie. La France n'avait pas tout à fait le même contour que maintenant. La frontière au nord était plutôt Amiens, la ville d'origine de notre président actuel. Donc il y a trois zones, on va dire, qui sont rendues dans l'exposition. C'est d'abord tout ce qui est le milieu royal, on va dire la Touraine, l'Île-de-France, les régions évidemment qui sont situées aux confins des Pays-Bas, la Picardie, et puis aussi cet axe nord-sud qui traverse la France, enfin la route en fait entre la Hollande et l'Italie. Et donc là, on a la Champagne, la Bourgogne et on va même jusqu'à Lyon. Vous faisiez allusion effectivement à ces tableaux de supplice. C'est quand même un des fils rouges de l'exposition, je trouve, qui est vraiment une prédilection pour les scènes de souffrance ou de supplice, avec des sujets parfois rares, la circoncision de Jésus, le décès de la Vierge, beaucoup de décollations. En effet, ou des simples mutilations, comme dans le tableau de Grégoire Guérard, l'arrestation du Christ, au premier plan duquel on voit Saint-Pierre qui s'apprête à trancher une oreille. C'est rendu dans le maniérisme des corps aussi, qui sont souvent contraints dans la composition et surtout par les scènes qui s'y passent. Mais ça semble correspondre à un goût profond de François Ier lui-même, puisque il y a un tableau de Josvan Cleve qui est Lucrèce se poignardant, qui est un tableau à l'érotisme bataillon, où on voit Lucrèce se rentrer vraiment le poignard dans le corps, entre les seins, qu'à la Forbeau, ce qui là est vraiment une spécificité flamande, puisque dans les peintres, dans la représentation de peintres italiens qui abondent au XVIe siècle, la plupart du temps le poignard ne touche pas la peau, et donc il n'y a pas ce jaillissement de sang qui aurait sans doute ou qui a peut-être réjoui Georges Bataille. En tout cas, j'ai retrouvé cette citation de Michel Léris qui, dans Lucrèce, Judith et Holoferne, raconte cet épisode en disant: il s'agissait avant tout de laver dans le sang la souillure d'une action érotique, expiant par son suicide la honte d'avoir été violée en y prenant peut-être du plaisir. Ça, c'était la Catherine Millet touche de ce soir.
Florian Guettet, est-ce que ce sont les supplices que vous avez retenus aussi dans cette... Je crois qu'elle est très très grosse aussi, cette exposition. Il y a énormément de choses. Oui. À en croire le catalogue, ça a l'air riche.
Il y a énormément de choses, il y a énormément de tableaux, etc. Mais après, moi j'ai trouvé quand même que le rythme en fait de cette exposition était tout à fait soutenable. Parce que on est... Alors certes, il y a des tableaux, mais c'est pas le principal. Il y a des tapisseries, il y a les coupes, il y a les bijoux, il y a tout ça. Donc à chaque fois, finalement, on est obligé de changer un petit peu notre regard. Et puis, enfin, moi, je trouvais ça vraiment pas du tout étouffant. Et voilà, enfin, on a connu d'autres hein, ces dernières semaines où on a eu du mal à aller jusqu'au bout. Là, non. Alors, effectivement, c'est une exposition à forte valeur historique ajoutée, on va dire, hein, puisqu'il y a cette thèse donc de revaloriser la peinture septentrionale dans un voilà contexte de mécénat florissant de François Ier. Moi, je pense que même derrière, on va un peu plus loin dans la thèse, puisque ce serait aussi de faire de la cour française peut-être un précurseur ou en tout cas une sorte de moteur dans l'établissement du siècle d'or néerlandais qui va arriver en fait à la fin du XVIe siècle. Donc je pense qu'il y a vraiment ça, et puis ça correspond aussi à la réouverture des salles de peinture du Nord au Louvre hein, cette année. Donc tout ça finalement coïncide assez bien. Alors moi la question que je me suis posée c'était de savoir si vraiment on avait affaire à la peinture flamande. Est-ce qu'il y avait une sorte d'essentialisme comme ça de la peinture hollandaise? Est-ce qu'on pourrait la voir? Est-ce que ça se démarque vraiment des Italiens? Et comme l'a dit très bien Stéphane Coréard, en fait c'est pas aussi simple de démêler l'italien du flamand, du néerlandais, parce que ce sont des peintres qui voyagent beaucoup à travers l'Europe, qui effectivement, si on les retrouve en France, c'est aussi parce qu'ils sont passés par la France avant d'aller en Italie, et puis qu'il y a des jeux d'influence quand même très 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 forts entre eux. Donc finalement, il y a cette peinture, qui, enfin cette peinture, cet art hein, au sens large, qui serait une forme d'œuvre de synthèse entre d'un côté une sorte de sobriété, de réalisme, de minutie du Nord et la flamboyance un peu plus méditerranéenne des Italiens. Alors moi, je sais pas pourquoi, j'avais toujours en tête Jean Fouquet en tête. Alors, il ne fait évidemment pas partie de l'exposition, mais il y a une actualité hein, quand même, c'est que le diptyque de Melun a été en ce moment exposé à Berlin. C'est extrêmement rare, ça fait je sais pas combien d'années que ça n'a pas été montré. Et donc du coup, c'est vrai, j'avais vraiment Jean Fouquet. Alors, je me demandais pourquoi, etc. Mais finalement, c'est pas si anodin que ça. C'est que Jean Fouquet, c'est vraiment le double héritier du Quattrocento italien et du maniérisme anversois, quoi. Donc finalement. Je dis que mon intuition n'était pas si fausse et j'ai essayé de repérer aussi là-dedans cette sorte de métissage des esthétiques et on le trouve vraiment très fort, très fortement dès l'entrée en fait, dès cette petite, cette toute petite peinture de Jean Clouet qu'on nous présente, qui est un portrait équestre de François Ier, où on voit effectivement la minutie des vêtements hein, qui est très 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 typique on va dire du Nord, avec notamment ces ornements de la selle de cheval, et puis derrière des références à l'antique, avec une forme de début de temple, qui n'a rien à voir finalement avec la peinture flamande. Donc on retrouve avec Jean Clouet vraiment cette sorte d'hybridation très très forte. On le trouve aussi chez Hugh Van Cleve que vous citiez, notamment cette Joconde nue, hein, qui rappelle vraiment et la Joconde nue de le fameux dessin dont on ne sait pas si on doit attribuer à Léonard de Vinci, mais aussi un tableau de Raphaël. Et puis, d'une manière générale, chez Grégoire Guérard, par exemple, une forme de d'écart finalement qu'il essaye de soutenir entre d'un côté quelque chose de très sec, désaffecté, très élégant, très voilà vraiment la posture froide du Nord et puis une palette complètement artificielle parfois très acidulée, très vive qui elle rappelle beaucoup plus au Sud. Donc finalement de l'esthétique vraiment des Pays-Bas, c'est toujours une esthétique plus ou moins contaminée par la Méditerranée. Alors je peux pas m'arrêter là, il y a quand même des marqueurs et on y reviendra.
Frédéric Bonnet, vous l'avez vu, vous, cet esprit du Nord?
J'ai vu l'esprit du Nord, j'ai vu l'esprit du Sud, j'ai vu l'esprit de synthèse et je partage l'enthousiasme de mes camarades de jeu sur le sujet parce que moi aussi j'ai été très très oui enthousiasmé par l'exposition qui est nouvelle dans l'approche du sujet parce qu'évidemment c'est des décennies de recherche effectivement c'est intéressant de nous montrer que il n'y a pas eu que des Italiens à la cour de François Ier et que en effet déjà au XVIe siècle, comme le disait Stéphane, les artistes voyageaient beaucoup et la salle, déjà, il y a un des morceaux de bravoure dans l'exposition, c'est véritablement la section centrale consacrée essentiellement aux portraits. Il y a une salle Jean Clouet, ensuite on passe à une série de portraits, notamment de Jos Van Cleve, et puis ensuite cette salle magnifique consacrée à Corneille de Lyon. Mais déjà, quand on rentre dans la salle de Jean Clouet, il y a quand même 10 des 12 tableaux de Jean Clouet attribués à Jean Clouet. C'est quand même assez prodigieux et qu'on ne reverra pas demain. Et ce qui est très intéressant, intéressant, c'est que dans cette salle-là, des tableaux de Jean Clouet, il y a les deux portraits de François Ier qui sont dans une manière un peu plus italienne que les autres. Le grand portrait d'apparat avec les grands costumes, alors véritablement italianisant, et à côté il y a un François Ier en Saint-Jean-Baptiste qui là est tout empli d'une petite brume, une sorte d'effet de sfumato léonardesque qu'on ne retrouve pas après ailleurs dans les autres tableaux. Et donc ça, c'est effectivement très très intéressant de voir que Clouet forcément s'est frotté aussi aux Italiens qui étaient à la cour. Et oui, il y a des morceaux de bravoure dans l'exposition. Les portraits de Van Cleef sont absolument magnifiques. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir pas un mélange, mais dans cette peinture de ces artistes du Nord ou d'origine nordique, une sorte de mélange d'outrance expressive qu'on n'a pas chez les Italiens, clairement, et d'élégance et de couleurs acidulées, comme le disait Florian. Grégoire Gérard, pour revenir à lui, il y a une arrestation du Christ où les coloris, mais vraiment, vous explosent à la figure. Et puis, il y a une déploration du Christ, alors là, qui est en grisaille, avec des modelés d'une vigueur. C'est presque de la sculpture. Et donc voilà, il y a une sorte de d'ambivalence. Et puis parfois, des innovations assez étonnantes. Il y a un tableau de l'Ascension du Christ dont on ne voit que les pieds. Ça, j'ai trouvé ça assez... J'étais un peu perplexe face à la chose, que c'est la première fois que je voyais une représentation comme ça, où c'est vraiment les pieds qui sont le sujet central. Donc il y a aussi une innovation, et effectivement, ce qui est très intéressant et très bien rendu par l'exposition, c'est la porosité entre les arts. Il y a un dessin je ne sais plus qui, je l'ai noté, mais je ne sais... Oui, de Jan de Berre, très très habillé, mais dont on voit que manifestement il a servi à l'élaboration du vitrail du Jugement de Salomon. Et il y a une pièce d'orfèvrerie dont on voit qu'elle est reproduite dans des dessins, et que d'autres dessins ont sans doute servi, enfin, ont pu être à la source de tout ça. Et donc voilà, il y a cette porosité entre les arts qui est assez remarquable.
Oui, parce qu'en effet, là, on a parlé beaucoup de peinture, mais bon, j'ai pas vu encore l'exposition, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, notamment les vitraux. J'ai lu dans plusieurs articles de confrères à vous que ça, c'était aussi une des spécificités et une des beautés de l'exposition. Je ne sais pas si vous êtes friand de vitraux, Stéphane Correa.
Pas spécialement, mais là on les voit effectivement d'une très belle manière. Ce qui est intéressant, c'est justement des vitraux qui ont été restaurés récemment et donc mis dans des doubles fenêtres, ce qui permet de les emprunter. Ce qui est un détail technique, mais quand même intéressant, parce qu'on voit effectivement rarement des vitraux dans les expositions de peinture. Néanmoins, ce que je trouve qu'on ressent, je pense, dans ce qui est dit ce soir, c'est qu'il y a ce creuset. En fait, il y a ces spécificités, en même temps ce mélange des arts, ce mélange des styles et des influences. Et ce qui est très beau, c'est de voir émerger des personnalités d'artistes singulières, irréductibles, et qui émergent vraiment au sens propre, dans le sens où c'est souvent, comme je disais un peu au début, des œuvres qu'on attribue au fur et à mesure. Par exemple, Corneille de Lyon, qui est une des plus belles salles, une des plus grandes découvertes, à mon avis, de l'exposition. Il y a 20 portraits, la scénographie très astucieuse à cet endroit-là, au moins astucieuse. Je suis pas fan de la scénographie en général, mais celle-là est très astucieuse parce qu'elle permet, quand on rentre, d'avoir tous ces tableaux de face, et puis ensuite, comme c'est facetté, comme ça, un peu les murs sont facettés, finalement quand on rentre, on les voit un par un, ils sont pas alignés sur le même mur, c'est une salle toute noire, et ces 20 portraits, tous uniformément sur fond vert, qui montrent, on est un peu dans la lignée de Holbein ou de Cranach, mais il y a à la fois une modestie et un naturel dans les postures, il n'y a aucune importance apportée aux vêtements, il n'y a quasiment pas non plus aux mains quand elles sont présentes, et ce qui frappe, et c'est là où la scénographie est très efficace, c'est l'aspect sériel, parce que c'est toujours la même pose, sur le même fond, etc. On se croirait presque dans une exposition de Thomas Roof, ce qui évidemment est quand même assez, assez surprenant et intéressant. Et finalement, c'est vraiment une étude presque sur le vif de ce que la psychologie fait à la physionomie. Donc ça, j'ai des effets de carnation magnifiques. Et puis l'autre chose qui est aussi, je trouve, une découverte pour moi en tout cas, c'est le Maître de Dindeville, un tableau, 55 cm de côté, carré, La descente dans la cave de 1537, un sujet tout à fait singulier, trois hommes qui transportent des tonneaux Pinault dans la cave d'une demeure seigneuriale. C'est presque une scène de genre déjà. Ça fait référence certainement aux richesses viticoles du domaine de Jean de Dindeville. Mais surtout, ça montre la virtuosité incroyable de ce peintre dans le traitement de la perspective. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste vraiment étonnant entre la rigueur de cette étude de la perspective et la gestuelle élégante, la palette tendre et la matière onctueuse du tableau. Moi, j'ai pensé au raboteur de Barquet de Caillebotte. Donc voilà, c'était aussi un rapprochement incongru, mais en tout cas qui s'est imposé à moi.
Je vais vous redonner tout de suite la parole, Florian, mais on a une petit commentaire à Issa Touré
du Curieux des Arts qui nous suit abonné chaque semaine. Pour lui, cette exposition restera comme une des grandes expositions avec un vrai propos et non une accumulation d'œuvres comme trop souvent.
Florian Guettet.
Bah, pour finir, quand même, il y a une particularité nordique. Alors, effectivement, ça se passe aussi dans les techniques, puisque si la peinture est peut-être un peu plus italienne, et encore, ça reste à prouver, mais effectivement, par contre, il y a une vraie domination, mais presque, en tout cas, une vraie influence de Bruxelles ou d'Anvers dans les tapisseries, les teintures. Et là, on voit que François Ier a un œil très avisé. Il achète d'ailleurs beaucoup de princeps. Hein, il est vraiment un des grands collectionneur finalement de ces pièces-là. Et on voit aussi des coupes que j'ai trouvées absolument sublimes, alors très chargées, hein, faut aimer ça, mais qui sont directement importées de la mode allemande. D'ailleurs, on voit des dessins d'Holbein le Jeune, hein, donc qui sont un peu à côté, on va dire, du sujet, mais quand même, qui viennent aussi nourrir cette esthétique-là. Et puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la dernière salle, en fait, où on voit ces revers de grisaille, donc on voit en fait des tableaux double face, donc qui sont posés sur des socles et non pas sur des cimes, donc ça, déjà, moi, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Et qu'on n'oublie pas non plus que la grisaille était justement un apport aussi de la Hollande, puisque c'est avec des gens comme Van Eyck, comme le maître de Flemal, donc au tout début du 15e siècle, elle est revenue en fait en force. Et donc là, moi, je suis assez déconcerté, au très bon sens du terme, devant ces œuvres, parce qu'elle leur donne une forme plastique, sculpturale assez incroyable. Hein, parce que si on allie à la fois cette technique-là en grisaille, donc quelque chose d'assez minéral, d'assez lunaire, avec le goût le réalisme du détail des drapés du Nord, eh bien ça donne quelque chose d'incroyablement vivant, presque en relief. Donc moi j'étais vraiment très très étonné en fait de ça, et on le voit encore, ça se poursuit dans à toute fin on voit les eaux fortes, les gravures qui sont données à Fontainebleau, où là on voit qu'il y a plus vraiment de distinction entre français, italien et hollandais. D'ailleurs, les hollandais étaient très très actifs. On le voit notamment à ces grands paysages qu'on n'a pas du tout forcément l'habitude de voir ni en France ni au sud. Donc, ils sont des inscriptions en fait de scènes assez dans des sortes de déserts boisés en fait. Donc, ils sont pas vraiment des déserts, en tout cas des grandes étendues. Et là, on voit aussi d'ailleurs tout la forme d'appropriation culturelle, puisque finalement ces gens-là, on a parlé de Corneille. De Lyon, qui est en fait Corneille de La Haye, hein, qui évidemment n'a rien qui est pas du tout natif de Lyon, mais comment ils sont francisés et ramenés finalement à l'école de Fontainebleau, et d'ailleurs considérés comme français, hein, qu'on parle de Clouet ou de Corneille de Lyon. Juste un mot encore sur Corneille de Lyon, moi aussi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette sobriété là, cette austérité, cette élégance là. Et là aussi, on rompt complètement pour une fois avec la pompe italienne, puisqu'il n'y a pas les paysages mythologiques, il n'y a pas le côté sacralisé, il n'y a pas les grands portraits matrimoniaux. Là, ce sont des sortes de face-à-face assez brutes et secs, mais d'une grande, j'allais dire, intégrité.
Ça fait très envie. Un dernier mot, peut-être, Frédéric Bonnet. Est-ce qu'il y avait peut-être un artiste dont vous n'aviez jamais rien vu, que vous avez tout à fait découvert dans cette exposition?
Oui, il y en a même plusieurs. Le maître de Dindeville, dont parlait Stéphane, moi aussi, qui m'a assez stupéfait par une maîtrise à la fois des compositions assez audacieuses, des sujets audacieux, parce que la descente à la cave, bon, j'ai pas une connaissance in extenso de tous les tableaux de l'histoire de l'art, mais j'en connais quand même pas mal, et c'est un sujet que j'ai quand même jamais vu traiter. Et puis aussi la salle de, je vais revenir là-dessus aussi, mais la salle de Corneille de Lyon, c'est quand même quelque chose d'assez inouï, surtout que elle vient juste après, elle est très bien positionnée cette salle-là, parce qu'elle vient juste après les magnifiques portraits de Jos van Cleef, notamment le sublime portrait de Henri VIII qui vient de la collection de la reine d'Angleterre, qui est un chef-d'œuvre à lui seul, qui n'a pas l'opulence italienne, mais qui est quand même encore un peu dans un registre un peu décoratif, notamment dans le traitement des étoffes. Bon, il représente Henri VIII. Le passage à la salle de Corneille, où effectivement on a tous les portraits de Visu d'emblée, où il n'y a plus aucun ornement qui existe, et il y a une frontalité et un expressionnisme, mais en même temps pas non plus trop appuyé. Donc il y a vraiment un magnifique équilibre dans cette peinture. Et ce qui est intéressant également, c'est la diversité des provenances, justement, dans l'exposition, parce qu'il y a des tableaux qui viennent de la collection de la Reine d'Angleterre, il y a aussi des tableaux, des pièces, des sculptures qui viennent de petites églises de Champagne, de Bourgogne, qu'on a restaurées pour l'occasion. Donc les expositions doivent effectivement pouvoir servir à ça aussi, à prendre conscience du patrimoine et à l'entretenir. Et donc là, ça a été fait, et puis je dis bravo.
Un tout petit mot, Stéphane.
Oui, juste pour dire que d'ailleurs, la commissaire pousse le netteté dans le catalogue à dire quel tableau elle n'a pas pu obtenir et qu'elle aurait aimé montrer dans l'exposition. C'est excessivement rare.
On va redonner son nom, Cécile Skyres, donc, pour cette exposition dans laquelle il faut se précipiter. François Ier et l'art des Pays-Bas, elle se tient seulement jusqu'au 15 janvier, c'est lundi prochain, mais il y a un catalogue que moi j'ai eu de la chance, fort épais et documenté, paru aux éditions Somogine.
France Culture.
La dispute.
Troisième et dernier sujet de cette dispute art plastique, l'effet du hasard, une exposition qui se tient au 104 dans le cadre de la Biennale internationale des arts numériques et qui se propose de donner à voir, je cite, des accidents artistiques intentionnels et une relecture poétique d'une société technologique perçue à l'heure du numérique. L'effet du hasard qui se déploie dans de nombreux espaces du 104, dans la nef centrale et puis dans les salles sur les côtés. Une exposition que malheureusement Frédéric Bonnet n'a pas pu voir en raison de, c'est vrai, son ouverture assez restreinte.
Les horaires, oui, ne sont pas faciles,
pas
parce
simple.
Que ça ouvre à 14h, mais pas tous les jours de la semaine. Donc c'était fermé le mardi. Le 104 est ouvert le mardi, mais pas les expositions. Donc j'ai voulu y aller mardi, pas de bol. Et puis aujourd'hui, mercredi, j'ai pas le temps.
Bon, voilà. Florian, vous avez réussi à y aller deux fois, je crois. Exploit.
Oui, non, parce que j'y étais allé au début, et puis c'est vrai que j'avais regardé ça avec un œil un peu flottant, on va dire, et puis finalement j'y suis retourné pour avoir quelque chose de plus précis. Alors en plus, je dois concéder que moi, quand on me présente une expo d'art numérique, je n'y peux rien, j'ai une forme de résistance, en fait, a priori, dont je m'excuse, mais qui est quand même justifiée ou argumentée, en tout cas, qui
on
est que
bien.
Je pense que les imaginaires qui sont liés, en fait, aux technologies numériques sont bien en avant, elles dépassent de loin les possibilités techniques, en fait. Donc, forcément, il y a toujours une forme de déception. Alors là, finalement, cette déception n'est pas si forte pour deux raisons. D'une part, je trouve qu'il y a une forme de réduction de l'écart, on va dire, entre l'imaginaire et la technologie, puisque même si c'est présenté comme un festival ou une biennale d'art numérique, c'est Nemo, hein. En fait, les propositions sont beaucoup plus plastiques que ça, beaucoup plus poétiques. On est très très loin finalement de l'univers du numérique, de l'informatique ou de la technologie. Donc s'il y en a qui sont rebutés par ça, n'hésitez pas du tout à y aller. On a quelque chose finalement d'assez sculptural, alors évidemment, hein, qui utilise des techniques, souvent de téléprésence, des automatismes, des mécanismes, mais... l'ensemble, finalement, les arts numériques ne prennent pas le pas sur l'art plastique, on va dire, sur la matérialité concrète des œuvres. Alors, on trouve de la performance, des théâtres d'objets, des installations, on va dire, sonores, des sculptures biophysiques, des spectacles lumineux, hein, on en a un peu pour son argent. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme d'habitude au 104, un petit peu spectaculaire, c'est-à-dire que effectivement ça fonctionne bien pour un public familial. On a des grands espaces, on a des grands rideaux noirs que j'aime pas du tout, mais enfin qui organisent finalement cette scénographie là, et on voit des œuvres qu'on n'a pas l'habitude, on va dire, de voir dans les parce que en général faute de moyens, parce que c'est très cher, parce que c'est un public restreint, etc. Alors ensuite son sujet par contre m'a beaucoup plus intéressé, c'est donc l'effet du hasard, l'effet FAITS. Pour jouer sur l'effet, la causalité, et justement, c'est une façon d'accompagner un mouvement aujourd'hui qu'on voit très fort dans l'intelligence artificielle, qui est d'introduire dans le terme technique, dans la machine, des notions telles que la singularité, la probabilité, le chaos, hein, beaucoup, l'aléatoire, etc. Et donc ça, je trouve que c'est très juste par rapport aujourd'hui à un état des recherches, et finalement de réduire petit à petit la différence entre le vivant et la machine, et sans tomber dans des délires transhumanistes ou forcément une forme de résistance comme ça très très forte. Non, il y a aujourd'hui tout lieu de croire que de toute façon des automatismes sont communs aux vivants et aux machines. Maintenant, ce que ça donne, c'est pas toujours très clair.
On va peut-être y revenir après ce premier petit tour, Stéphane Coréard.
Ah, moi, j'aurais écouté encore Florent Guettet pendant une heure. J'aurais bien aimé dire que je suggère qu'on le nomme comme commissaire de la prochaine biennale des arts numériques.
Mais il aime pas ça.
Peut-être plus intéressant.
Alors, il vient
moi,
de vous le dire.
C'est drôle parce que moi, j'ai exactement, ça me fait l'effet inverse. Quand on parle d'art numérique, comme je connais moins bien que l'art et que je m'intéresse à toutes les formes d'art, ça m'intéresse, mais j'aimerais bien qu'on parle plus d'art numérique, en fait. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, par exemple, l'exposition n'en parle pas. Non, enfin pas franchement. L'internet non plus. Enfin, les évolutions de la machine, etc. Tout ça est quand même largement absent. Un spécialiste de la question des arts numériques, Nicolas Rosette, dit souvent dans l'art numérique, il y a souvent beaucoup de numérique et pas beaucoup d'art. Donc là, c'est vrai que on n'y échappe quand même pas. Il y a toute une partie de choses. Alors c'est quand même plutôt une biennale des choses dans le noir et des objets qui bougent, en gros, hein, que les arts numériques. Et là, effectivement, on a un rayon assez rempli. Il y a des chaises qui bougent toutes seules. Bon, on comprend pas très bien l'intérêt profond de la pièce. Des filaments de néon qui s'allument et qui s'éteignent pour soi-disant simuler l'activité cérébrale. De la mousse qui pousse sur des parallélépipèdes pour soi-disant régénérer l'atmosphère. Bon, tout ça n'est pas, à mon avis, très nourrissant. Là où ça devient plus intéressant, c'est justement quand les artistes sortent de ce rapport de fascination avec leur médium, qui de toute façon est toujours mauvais. En peinture, par exemple, ça donne soulage. Vous voyez quelqu'un qui fait un trait de pinceau et qui trouve ça tellement beau qu'il s'arrête là, il le contemple et il est en admiration devant sa matière. Pour le numérique, c'est exactement pareil. Donc là, il y en a. Par exemple, il y a un métal tordu par des enceintes acoustiques qui fait un peu de bruit. Voilà, bon, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle un peu l'effet Fresnoy. D'ailleurs, cette pièce-là vient du Fresnoy. Il y en a beaucoup, effectivement. C'est pratique parce qu'ils produisent. Donc, effectivement, ça soulage d'autant la structure. Il n'y a pas beaucoup de découvertes pour les gens qui connaissent, du coup, l'art contemporain. Enfin, de découvertes intéressantes. Il y a beaucoup de pièces aussi qu'on a déjà vues ailleurs. Par exemple, les lauréats de la bourse Révélation Emmerich, qui sont d'ailleurs deux des œuvres les plus intéressantes, celle de Vivien Roubaud, Fluder, qui est une sorte de barbe à papa gratuite, géante, qui s'envole dans le ciel. Il y a trois canons qui lancent du sucre cristal dans une matrice, et ensuite trois ventilateurs qui la font s'envoler un peu comme des rubans d'ADN dans le ciel. Les enfants les ramassent. Tout ça fonctionne très bien, et c'est très intelligent, très beau, c'est à l'échelle du lieu. C'est une des plus belles installations pour moi. Il y a le film de Linda Sanchez qui suit cette goutte d'eau, une pièce qu'on a déjà vue aussi chez Emmerich, donc bon, c'est bien de la revoir là parce que c'est une très bonne pièce. Mais donc c'est une caméra qui suit une goutte d'eau qui tombe le long d'un toit et qui la suit de manière qu'elle soit immobile dans l'image. Donc c'est effectivement très, ça fait un effet très troublant.
Sur 11 kilomètres.
Absolument. Il y a aussi du coup les œuvres qui jouent avec les limites peut-être du système de l'art, qui là font des clins d'œil du coup un peu salutaires. Il y a la pièce de Jérôme Cavalière qu'on avait déjà vue il y a quelques années au Salon de Montrouge, Competition for the Horses, Not Artist, une pièce de 2015, qui sont des prélèvements de sang et d'urine et une fausse vidéo d'actualité racontant comment les artistes se dopent pour gagner des prix dans les biennales ou être présents dans les foires d'art contemporain. Donc ça, c'est quand même un petit peu de détente. Et aussi la vidéo de Romain Gandolf qu'on a vue aussi à Montrouge et à Jeune Création, où il fait effectivement une visite guidée, une médiation de l'exposition au moment qui précède le montage, c'est-à-dire quand les espaces d'exposition sont vides.
Moi, c'est le caractère ludique hein, quand même qui m'a frappé. Moi, je ne connaissais pas les pièces dont vous avez parlé, notamment cette énorme bétonnière. Enfin, ça ressemble à ça, à Barbe à Papa. Moi, j'y suis allée cet après-midi. Il y avait beaucoup de jeunes et de scolaires, notamment, qui avaient l'air de porter beaucoup d'intérêt à peu près toutes ces installations qui, si à mon avis, elles ne sont pas très liées entre elles par une cohérence autour du numérique, en effet, on ne voit pas trop, sont certaines d'entre elles quand même assez intéressantes et peut-être suffisamment pour qu'on puisse s'y intéresser. C'est quand on ne connaît pas forcément l'art contemporain. Florian Guettet.
Il ne faut pas oublier que le jeu, ça a été aussi un principe de composition et de réalisation des œuvres, et qu'il y a toute une histoire de la modernité chez Dada, chez Surrealiste, où le jeu est un principe de composition. Et là, on retrouve ça, c'est-à-dire aussi comment créer une œuvre à partir du hasard. Effectivement, on parlait de cette... plaque qui se tord sur elle-même. On peut parler de l'installation de Michael Montanaro et David Navab, Aquafonia, qui transforme les sons en matière. Hein. D'ailleurs, d'une façon générale, c'est ludique, mais c'est aussi très expérimental, avec une vraie esthétique très appuyée du laboratoire, soit d'ingénierie, soit du laboratoire de chimie. Hein.
Donc oui, là, ça regarde en fait beaucoup plus vers des technologies extrêmement archaïques que vers le numérique.
Exactement, et puis je trouve que c'est appuyé par le fait qu'on est dans la pénombre, avec ces grands rideaux noirs qui font quand même très théâtraux, quoi. Donc on reste quand même dans cette esthétique-là. Alors c'est les vrais, les couleurs sont de suite très vives. Hein. On est attiré. Alors bon. Non, mais je continue à croire que les imaginaires, pour l'instant, n'ont pas encore rejoint les réalités techniques. Hein. Effectivement, moi, mes déceptions, elles se portent justement sur ces œuvres qui veulent en faire trop par leur lumière et qui veulent en mettre un peu plein la vue, quoi, au sens propre du terme, et avec des projets qui sont parfois presque rhétoriques, quoi. The Machine to Be Another, qui est un casque de simulation pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre, qui est choisi au hasard. On a Lichtmerlicht, qui est un dispositif lumineux qui reproduirait une expérience de mort imminente. Enfin, très honnêtement, si vous êtes allé dans un club une fois dans votre vie, vous retrouvez exactement la même sensation, quoi. Donc, on n'est pas non plus dans quelque chose de très nouveau. Semi-senseless drawing modules de Socano et Young. Alors eux, c'est un robot qui crée une œuvre. Alors là, pour moi, c'est complètement à côté de la plaque et... Enfin voilà, que je vois pas trop bien parce qu'il est censé être sensible à l'environnement, etc. Mais enfin, ça ne marche pas. Ou Predictive Artbot qui est là pour faire des prédictions sur le monde de l'art. Donc là, je trouve que effectivement, à force de jouer, bah peut-être qu'on s'éloigne un petit peu de l'art. Et même ces œuvres finalement de Romain Gandolf ou de l'œuvre dont vous parliez sur le dopage des artistes sont là aussi pour créer une forme de légitimité ou légitimisation en disant oui, les arts numériques peuvent se placer par rapport aux arts traditionnels, classiques, etc. Et en même temps, bah, à force de jouer ce jeu-là, bah, je trouve qu'il tombe un petit peu à côté.
Stéphane Correa.
Oui, c'est aussi mon carton rouge parce qu'effectivement, là on voit aussi que les mondes s'ignorent entre l'art contemporain et les arts numériques, c'est qu'il y a quand même des redites d'œuvres d'artistes contemporains ou des décalques quand même trop proches. Il y a le piano qui joue de la musique avec des images d'oiseaux de Cathy Hinde. Alors évidemment, c'est pour ces Mougenot n'est quand même pas loin, même si lui, ce sont évidemment des vrais oiseaux.
Cécile Talec aussi.
Absolument, et Cécile Talec. Et puis il y a les plantes agitées par le vent au Minnesota qui sont là répliquées de David Bowen. C'est aussi une pièce qu'on a vue mille fois dans le champ de l'art contemporain. Et pour moi, le gros point rouge, c'est quand même effectivement en dehors des horaires d'exposition qui sont très très faible. Le fait que quasiment un tiers de l'exposition n'était visible que le jour du vernissage, c'est toutes les performances dont il reste aucune trace, et qu'il y a encore un tiers des œuvres qui n'étaient visibles que jusqu'au 7 janvier. Malheureusement, comme on a eu la malchance d'y aller après, l'exposition dure jusqu'en mars. J'ai pas très bien compris ce concept.
Bon, il y a quand même des choses à voir, et puis il faut replacer aussi l'exposition dans le contexte du 104, qui est un lieu où des gens qui ne voient pas trop d'art contemporain viennent. Voilà, donc l'effet du hasard dans le cadre de la Biennale internationale des arts numériques au 104, c'est à voir jusqu'au 4 mars prochain. C'est bientôt l'heure de conclure cette émission, mais non sans avoir joué. Grégoire Di Fiore qui nous rappelle d'abord la question d'hier et nous en donne la réponse.
Dans quel documentaire sans bande-son, Chantal Akerman capte des lieux, des épisodes et des occupants d'un hôtel? La réponse était Hôtel Monterrey.
Et a gagné ce soir des invitations pour le film Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo qui sort aujourd'hui au cinéma, Grégoire.
Dans quel arrondissement parisien se déroule le film Night and Day du réalisateur sud-coréen?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de demain. Vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter DisputeFC avec le hashtag La Dispute. Demain à 19h, La Dispute sera consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie d'Elisabeth Philippe, Jean-Christophe Brianchon et Laurent Nunez. À notre sommaire, Microfiction 2018 de Régis Geoffrey, L'oubli de Philippe Forest et Écoute la ville tombée de Kate Tempest.